Une question qui a trait à la vie de Girard lui-même. Si mon souvenir est bon, au point de départ, Girard n'est pas du tout chrétien.
C'est vrai.
Son point de départ est plutôt, comme vous l'avez évoqué, avec la littérature, ensuite avec l'anthropologie au sens que ça avait traditionnellement, c'est-à-dire l'étude
Les sociétés
des
archaïques.
sociétés archaïques. Et en fait, il n'est revenu, c'est assez curieux, parce qu'en fait, quand on voit l'histoire du Christ, il y a quand même une cohérence avec la victime innocente qui est assez forte. Il n'est pas du tout rentré par là. Il est entré vraiment cette présence de la violence
Alors,
un peu dans toutes
il
les sociétés et dans cette histoire du mimétisme du bouc émissaire. C'est à partir de là qu'ensuite il a progressivement réenvahi toute une série de sujets qu'il interprète avec ce canevas-là.
Disons qu'à partir des choses cachées, des
C'est
autres
ça, ouais.
ouvrages, le bouc émissaire, j'ai vu Satan tomber comme l'éclair, etc., c'est toujours des citations bibliques qui sont le titre de ses ouvrages. Il est devenu, enfin, c'est une apologétique du christianisme, enfin, bien entendu. Mais en ce qui concerne, puisque vous me parlez biographie, en ce qui concerne Girard lui-même, il est d'origine, enfin, d'origine, de culture catholique. Sa mère était catholique, son père était radical socialiste. Et il était, quand il est parti aux États-Unis, en 1947, il est parti parce que chartiste, il n'avait pas tellement le choix et il ne voulait pas devenir conservateur de musée. Donc, il est parti pour échapper en quelque sorte à sa destinée. Le problème en France, c'est que c'est très compartimenté. On peut pas, enfin, on est classé. Il n'avait pas les diplômes qu'il fallait pour enseigner. Donc, il est parti aux États-Unis. Et il est parti comme sartrien, si vous voulez. Il est parti comme libre penseur, enfin agnostique. Et puis, il s'est plongé dans ses romans. Il a trouvé, ça j'ai pas eu le temps évidemment, c'est quand même très riche, hein. Il a trouvé dans les romans qu'il a étudiés, en particulier Dostoïevski, mais tous, la conversion romanesque. Il s'est attelé à montrer que pour qu'un romancier comprenne, dénonce le modèle en quelque sorte, le voit, et comprenne l'espèce de chemin qu'il a fait, en se croyant autonome, au fond, pour comprendre qu'il s'était trompé, pour comprendre qu'il n'était pas autonome du tout, il a fallu qu'il se libère de ses modèles et que c'est comme une espèce de conversion. La conversion de Paul, c'est tout à coup ce persécuteur qui entend Dieu lui dire, Paul, ou Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et au fond, quand on lui demande ce que c'est qu'une conversion, Girard dit, c'est ce savoir persécuteur. Le chrétien de base est persécuté, le vrai chrétien, enfin le chrétien, le dévot pour parler comme Pascal est persécuté, le vrai chrétien, il se sait persécuteur. C'est-à-dire qu'il a fait cette conversion qui lui permet de voir le mensonge dans lequel il était, le mensonge que Girard appelle romantique parce que c'est le mensonge ce qui consiste à se croire libre, individu, autonome, et qui est un mensonge de l'orgueil, au fond, c'est le mensonge, oui, c'est le mensonge de l'orgueil. Et le mensonge de l'orgueil, comment est-ce qu'on peut s'en délivrer? Ben, par cette humilité, justement, par cette conversion de l'orgueil à l'humilité qui consiste à se voir, et en exposant tout ça, qui ressemble à une conversion religieuse, et c'est tombé, comme Simone Veil le dit, à un certain moment, à un certain lieu, il a été converti. Girard s'est converti en 59. Il a décidé de se marier à l'église et de baptiser ses enfants à cette époque-là. Donc, la conversion lui vient de sa pensée, si vous voulez, mais en même temps, c'est circulaire. En même temps, il a vu quand même les romans sous une lumière religieuse. Si vous m'en suis pas rendu compte en lisant la première fois Mensonges romantiques et vérités romanesques, mais c'est clair que C'est à la fois des romanciers que vient la conversion et c'est à la fois de Girard converti que vient cette lecture des romanciers. C'est une conversion qui consiste à voir ce que les autres ne voient pas, mais aussi surtout à comprendre ce qui s'est passé, ce qui peut se passer dans l'esprit de quelqu'un qui a vécu dans le mensonge un certain temps et puis qui tout à coup s'en rend compte. Comment se fait-il qu'un snob mondain comme Proust est devenu tout à coup conscient et capable de raconter cette histoire du point de vue de la vérité? Parce qu'avant d'écrire La recherche des temps perdus, Proust écrit Jean Santeuil. Et dans Jean Santeuil, il est toujours le héros de la fête, il est toujours au centre. Et en écrivant La recherche du temps perdu, il nous montre les modèles, il nous montre ce que c'est que le snobisme. Et au fond, qu'est-ce que c'est que le snobisme? Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à des gens qui vont dans les salons et qui cherchent à se faire bien voir de gens prestigieux. C'est peut-être, Ockart l'avait dit avant Girard, c'est peut-être une forme de désir mimétique avoué, quoi. Finalement, le snob, il cherche à se distinguer en devenant identique à une classe supérieure qu'il imite. Et au fond, peut-être que c'est un défaut qui n'est pas répandu que chez les snobs mondains, c'est partie de la nature humaine, c'est un défaut humain. Autrement dit, le romancier ne découvre pas sa singularité à lui, il découvre quelque chose d'universel.
Ouais, j'avais une question, si vous me permettez. Vous avez opposé, en quelque sorte, dans votre démonstration, la violence utile, la violence cathartique, la violence qui unifie, qui réconcilie, en quelque sorte.
C'est ça.
À la violence apocalyptique, à cette violence inutile, et on pense effectivement à la violence djihadiste, par exemple, qui finalement n'aurait pas de sens ou de cohérence par rapport à cette démarche mimétique telle que vous la décriviez. Mais vous avez aussi dit que finalement, pas finalement, mais que cette démarche était inconsciente et que du point de vue de celui qui créait cette violence utile, ce qui était important, c'est que finalement il n'en avait pas, important je ne sais pas, mais à tout le moins ce qui caractérisait, c'est qu'il n'en avait pas conscience. Est-ce qu'il s'agit là finalement, est-ce qu'il ne s'agit pas là finalement d'une question de point de vue? Parce que lorsque vous dites par exemple que finalement le sacrifice conscient, j'allais dire presque du Christ, conscient parce que finalement il venait parfaire son œuvre et sa mission. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, le caractère utile est aussi une question de point de vue et d'interprétation. Est-ce que ceux qui sont djihadistes et qui ont foi en une interprétation extrême de l'islam ne peuvent pas aussi voir dans cette pratique que nous voyons, nous considérons comme catastrophique, violente, sans véritablement dénu, enfin constitutif d'un sens, au sens où vous l'analysiez, est-ce que pour eux, ça n'est pas aussi le moyen de se souder, de se regrouper et par le sacrifice du non-croyant, enfin le terme c'est…
Du mécréant.
Mécréant, merci, voilà, c'est exactement le terme que je cherchais. Par le sacrifice du mécréant, est-ce que finalement, on n'en revient pas exactement au mécanisme que vous décriviez pour les autres, en fait, pour ceux qui…
Je précise que David est avocat, hein, madame.
Oui, pardon, la question est plus longue que la réponse, pardonnez-moi.
Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, je trouve que votre lecture est juste. Ils sont, en fait, ils sont dans cet univers concurrentiel moderne qui est le nôtre, et ils sont tout à fait… Moi, je crois pas, et Girard ne croyait pas, au choc des civilisations. Ils appartiennent à notre civilisation. Quand ils ont renversé les tours, là, quand ils ont percuté en avion les Twin Towers, ils étaient pas, comment dire, ils venaient pas du Moyen Âge. Hein. Donc il est clair que leur technologie, leur tout est moderne. On est dans une société mondialisée. Ils font partie de cette société mondialisée et ils ont le même désir de concurrence, de pouvoir de que nous. Mais ils habillent tout ça avec, parce qu'il faut bien qu'ils se différencient. Leur identité, c'est la religion archaïque. Puis alors, dans ce qu'elle a de plus, la violence extrême, elle a toujours quelque chose de sacré. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que la violence, la petite semaine, c'est sociologique, mais la violence énorme, c'est sacré, c'est religieux. Donc, c'est dans le sens que je pense que vous avez raison. Leur religion, c'est même pas tellement leur religion qui produit cette violence, c'est leur violence qui produit leur religion. Ils sont tellement violents que d'une certaine façon, non seulement ça les unit et tout ça, parce qu'ils ont leur martyr, enfin ils vont avoir leur mythologie, ils ont tout ça, mais ils produisent. Et donc, vous avez là à la fois des gens qui sont comme nous, qui sont dans le monde moderne, et dont l'identité, qui n'est pas vraiment usurpée puisqu'ils payent de leur vie cette identité, dont l'identité est la religion archaïque, enfin ce qu'il y a de plus archaïque, ce qu'il y a de plus violent dans la religion. Donc, ils sont des ennemis assez difficiles à cerner parce qu'à la fois, ils sont sur un pied d'égalité, dans leur communication, dans leurs moyens, dans leurs armes. Et ce n'est pas comme une civilisation contre une autre. C'est à l'intérieur de la même civilisation. C'est des gens qui contestent de l'intérieur de la civilisation cette civilisation. C'est-à-dire qu'ils viennent heurter notre modernité par ce qui peut la heurter le plus. Et alors, quand je disais que Paul Dumouchel a écrit un livre qui s'appelle « Le sacrifice inutile », je voulais dire par là que les génocides, les atrocités n'ont pas d'effet, comment dire, constructeur. Je veux dire, ça ne débouche sur rien. Ça débouche sur la terreur. Ce sont des terroristes. Ils nous terrorisent. Ils essaient de nous intimider, certainement, de nous terroriser en nous mettant devant des spectacles qui sont insupportables, et qui sont naturellement médiatisés, c'est-à-dire télévisés, etc. Je crois qu'il y a là une mise en valeur de la violence qui est extrêmement choquant, mais qui, sur le plan où on se place anthropologique, ne débouche sur rien.
Mais est-ce que la différence
fondamentale... Elle est prise comme fin, la violence, elle n'est pas prise comme moyen.
Que la différence fondamentale, ça ne viendrait pas du fait que, par exemple, le Christ sacrifié porte en lui le ferment de l'unité, de la réunification, et justement de ce mécanisme qui combat la violence, alors que pour les djihadistes, le mécréant sacrifié n'est pas celui qui est sanctifié, puisque c'est le martyr, c'est plutôt celui qui se sacrifie, le martyr qui est sanctifié. Et là, il y a une différence fondamentale, c'est que finalement, celui qui commet l'atrocité et qui est tué parfois, devient le martyr, alors que celui qui est sacrifié devient une victime inutile et innocente, enfin reste une victime innocente. Il ne change pas de statut.
Oui, il y a une certaine perversité. Cette perversité, elle a existé un peu chez les bons pères qui, autrefois, on nous disait que le Christ était mort sur la croix pour la rémission de nos péchés. Et en fait, il y avait l'idée quand même que son Père, le Dieu le Père, l'avait mis là. En quelque sorte, c'était un projet divin que le Père allait sacrifier son Fils pour nous. Et je crois que cette lecture-là, en tout cas, ce n'est pas celle de Girard. La lecture de Girard, ce n'est pas du tout que La lecture de Girard consiste depuis le début, depuis que Caïn, que Dieu dit à Caïn, le sang de ton frère crie vers moi, c'est de déculpabiliser, comment on ne peut pas dire déculpabiliser, c'est de sortir de l'idée que Dieu est violent. Le Dieu de la Bible est très violent, il est peut-être même plus violent que les dieux grecs. Mais, dit Girard, il faut faire attention que là où il y a de la violence dans un texte, c'est peut-être pas parce que le monde dont parle ce texte est plus violent que là où il n'y en a pas, c'est peut-être parce que le monde qui est violent, qui est toujours violent, en est plus conscient. C'est-à-dire que la Bible est plus violente que les mythes grecs, parce que les Juifs seraient plus conscients de la violence comme d'un problème, comme de quelque chose qui fait problème. Alors que la violence est toujours plus ou moins gommée, plus ou moins occultée, adoucie, enfin, comme vous voulez, métaphorisée, par exemple, la peste, c'est une violence, on pourrait dire, assez... pas aseptisé, puis c'est quand même une violence qui est dont l'homme est déchargé. La peste, c'est une maladie qu'il subit, mais c'est pas lui qui en est coupable. Donc là où la violence est prise en compte, c'est justement qu'elle fait problème. Elle n'est pas expulsée, elle n'est pas extériorisée, elle est prise en compte. Et ce que fait le Christ en mourant en croix, c'est de mourir d'une manière logiquement humaine, c'est-à-dire que c'est quand même l'incarnation. Il meurt en les résurrections montrent que c'est Dieu, mais il meurt en homme qui prêche la non-violence dans un monde violent et qui doit donc nécessairement mourir violemment. Mais ce qu'il montre dans sa mort, c'est pas la violence de Dieu. Dieu n'y est pour rien. C'est la violence des hommes. Et ça, je crois que c'est très important. Les théologiens aujourd'hui disent que les théologiens anglais disent que Girard leur a ouvert un horizon, d'une certaine manière, en montrant que cette offre du royaume que fait Jésus est la cause de sa mort, mais que c'est les hommes qui le tuent et non pas Dieu qui se servirait des humains que les meurtriers de Jésus ne sont pas des outils de Dieu. Alors que chez les djihadistes, ils sont les outils de Dieu. C'est-à-dire que ça fait une grande différence. C'est-à-dire le Dieu de la Bible, même s'il est encore violent, problématise la violence. Le Dieu chrétien, c'est-à-dire Jésus, parce que de Dieu, nous ne pouvons connaître que Jésus, il est absolument pas du tout du côté de la violence. Et il meurt justement parce qu'il ne peut pas, ayant... proposer le royaume, se comporter comme si cette offre était une offre en l'air. Il est tenu, mais je parle comme s'il était qu'un homme, en tant que Dieu incarné, il est tenu d'être fidèle à son enseignement, etc. Donc, chaque fois que quelqu'un essaye de, au moment où il est de Golgotha, là, il y en a un qui essaie de le... ou avant, là, sur le mont des Oliviers, pardon. Il y en a un qui sort son épée, etc. Et quand Pierre aussi dit « Mais non, tu vas pas mourir comme ça parce qu'on te défendra », il lui dit « Va des rétro, Satana, tu parles le langage des hommes. » Et c'est la loi des hommes, ça. Et lui, ce n'est pas sa loi à lui. Donc ça fait une grande différence entre... entre le Dieu tel que Jésus nous le fait découvrir, c'est-à-dire la loi de l'amour qui s'oppose à la loi de la violence, la logique de l'amour qui s'oppose à... et puis ce que pratiquent les djihadistes, qui est à la fois neuf pour nous, parce que ce sont des gens qui, encore une fois, sont technologiquement, médiatiquement, etc., ils font partie de la mondialisation, et les recettes les plus archaïques pour s'identifier comme refusant cette civilisation. Mais ce n'est pas cette civilisation qui refuse, c'est pas, encore une fois, puisqu'il l'utilise, c'est l'Occident. Donc ce qu'il refuse, en fait, est beaucoup plus spirituel que matériel. Et refuser l'Occident spirituellement, c'est refuser cette révélation que la violence est humaine. Les djihadistes, ils pensent que la violence est divine. Alors, ils s'en sont peut-être persuadés, ou ils essaient de croire qu'ils en sont persuadés, j'en sais rien, si beaucoup sont croyants ou font semblant, ou sont contents de se trouver dans un groupe et sont en fusion, etc. Parce que ce sont quand même des hommes politiques qui se servent de la religion aussi, hein, ce n'est pas que des religieux. Mais il faut prendre la religion, leur religion quand même au sérieux, puisqu'ils meurent pour elle, mais ils meurent pour la mort. Enfin, c'est des nihilistes, d'une certaine façon. Ils meurent pas pour la vie. La figura Christi la plus intéressante, c'est celle de la prostituée dans le Jugement de Salomon, la bonne prostituée qui dit au moment où on est en train de couper son enfant en deux, où on va couper son enfant en deux, ce qui est logique, c'est la logique sacrificielle, qui renonce à sa maternité, qui peut-être même va se faire mal voir parce qu'on dira qu'elle a menti ou je sais pas, qui dit ne le tuez pas, donnez-le à l'autre. Son enfant, elle le donne à l'autre pour qu'il vive. Et la seule raison qu'elle a, c'est que l'enfant vive. Et Jésus meurt pour que l'humanité vive. Et ben, je ne crois pas que les djihadistes meurent pour la vie. Il y a quand même une espèce de fascination de la mort. Non.
Oui, mais Jésus doit mourir, justement. Je termine.
Ouais, faut passer aux autres questions. Ouais.
Mais je veux dire juste que Jésus, justement, doit mourir pour accomplir l'œuvre pour laquelle il est venu sur Terre. Vous parlez de culpabilité tout à l'heure, ce qui fait qu'il y a tout un débat, d'ailleurs, sur l'utilité de Judas et le rôle de Judas Iscariote, qui finalement, pour beaucoup, dans leur analyse, n'est pas celui qui l'envoie à la mort, mais celui qui lui permet justement d'accomplir son destin. Voilà, je termine.
Oui, tout à fait. Sinon, c'est un bouc émissaire, Judas.
Et voilà, exactement.
Qu'est-ce qu'il y a comme question ?
Merci, David. Juste sur la notion de victime, donc consciente, révélée, assumée, est-ce que ça n'a pas développé un pattern en Occident, chez nous, de victimologie, justement, de posture victimologique qui devient une sorte de façon de fonctionner, puisque la de position dans laquelle on est tous innocents, donc tous victimes.
Alors, je vais vous répondre avec Gérard. Il y a deux réponses. La première réponse, c'est ce que vous appelez la victimologie. Là, tout le monde veut occuper la place de la victime. Même Ben Laden, quand la seule interview qu'il a donnée après son exploit, il a dit « c'est pas nous qui avons commencé, c'est les Américains à Hiroshima ». Et c'est ce que disait aussi le test que j'ai cité assez vite. La violence n'est jamais revendiquée comme première, elle est toujours seconde. On ne fait que se défendre. Quand on est violent, c'est parce qu'on a été agressé. Donc et c'est ça le mimétisme. Il y a pas, quand chacun imite tout le monde, il y a pas de commencement. Il y a pas de commencement. Alors du coup, effectivement, la position de la victime est maintenant revendiquée. Et puis ça va même plus loin. Il y a une concurrence victimaire entre les Noirs, etc. Il y a même quelque chose de pire que la concurrence victimaire, qui est un peu. Il y a la violence au nom des victimes. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que le communisme ? C'est effectivement un nombre incroyable de morts. Et pourquoi ? Au nom des victimes. On combattait au nom des victimes. C'est-à-dire que c'est au nom de l'injustice. Qu'on faisait tout ça. C'est au nom de la justice. Ce qu'on combattait, c'était pour un monde où il n'y aurait plus d'injustice, où il n'y aurait plus d'inégalité, où il n'y aurait plus… Donc, c'est très souvent en invoquant le souci des victimes, qui est quand même une conquête chrétienne appréciable, le souci des victimes, c'est les droits de l'homme, c'est les hôpitaux, c'est la sécurité sociale, c'est tout ce qu'on fait pour que les oubliés soient pas trop oubliés, etc. Donc, il y a le souci des victimes auquel on tient, parce que ça, c'est la société dans laquelle on a envie de vivre. Et puis, il y a le souci des victimes au sens que vous dites d'être du bon côté, toujours du bon côté, et en se plaçant du bon côté, de devenir violent. Parce que c'est ça qui est terrible, c'est que la violence au nom des victimes, elle est très difficile. Il est très difficile de répondre à quelqu'un qui se bat au nom de l'injustice, si ce n'est par une autre violence. Quand un violent est vraiment brutal et méchant, c'est plus facile de lui répondre que quand il est là en train de dire « mon combat est juste, c'est une guerre juste, je vais éliminer un certain nombre de gens sur la planète parce qu'ils empêchent les autres de vivre en paix, etc. » Donc, le souci des victimes peut être très meurtrier. Il y avait une autre chose que, dans ce que vous dites, il me semble que pour revenir au Christ, l'imitation de Jésus-Christ, elle peut avoir deux sens. Le sens de faire la victime, ça j'ai connu des gens comme ça, qui donnaient leur douleur à Dieu, c'est-à-dire qui étaient presque contents de souffrir parce que ça leur rapprochait de Dieu. C'était l'imitation de Jésus-Christ, le dolorisme, etc. Et puis l'imitation de Jésus-Christ à laquelle pense Girard, qui n'est pas de considérer Jésus-Christ comme un modèle. On ne peut pas prendre comme modèle Jésus-Christ sur la croix, ça c'est une chose absolument personnelle, c'est son aventure. Par contre, l'imitation de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'imitation, Jésus-Christ dit « imitez-moi parce que j'imite le Père ». Imiter Jésus-Christ dans la mesure où le seul modèle qui est le sien, c'est le Père. Et là, on retrouve la transcendance verticale. La transcendance déviée, c'est quand on idolâtre quelque chose ou quelqu'un. Et la transcendance verticale, c'est quand c'est Dieu qu'on aime, mais pas évidemment le Dieu des djihadistes, qui n'est pas du tout aimable, le Dieu du Christ, c'est-à-dire le Dieu d'amour, le Dieu qui n'a rien à voir avec la violence. Je précise que Girard, en bon chrétien, croit au péché originel, et que pour lui, le péché originel, c'est clairement le désir mimétique. Hein. C'est-à-dire que le désir de d'être Dieu, le désir de... je crois que Ève succombe à la tentation de Satan, du serpent, et puis elle imite, en fait. Le désir, c'est-à-dire qu'au fond l'homme qui désire mimétiquement, c'est l'homme d'après la chute. C'est-à-dire, je crois que c'est ça pour Girard, qui est lecteur de Saint-Augustin, de Pascal. Satan, c'est souvent le nom qu'il donne à tout le processus mimétique, qui est un processus que j'ai décrit comme étant tentateur, la tentation. Ensuite, séducteur, si vous voulez, et puis ensuite facteur de désordre et d'ordre, parce que c'est Satan, il met le chaos, puis ensuite Satan expulse le chaos, mais il prend la direction des opérations. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'un ordre fondé sur le mécanisme victimaire? C'est pas un ordre satanique, c'est un ordre qui est fondé sur la violence, c'est un ordre qui fait régner la logique, cette logique-là, la logique de la violence. C'est pas un ordre satanique parce que Girard dit la religion archaïque n'est pas satanique parce qu'on ne peut être satanique qu'après la révélation christique. Avant, on ne peut pas l'être. Mais par contre, les idéologies meurtrières, le nazisme est satanique. Le nazisme est satanique. Parce que là, on est après la révélation et le djihadisme est satanique.
Qu'est-ce que vous entendez par satanique exactement ?
Satan représentant le processus mimétique, l'hypothèse de Girard dans son ensemble, depuis la séduction jusqu'au bûcher bûcher qui réconcilie, est satanique, un ordre qui est régi par la violence, c'est-à-dire qui met la violence au qui met la violence
qui,
comme...
Mais qui a conscience de la violence, qui utilise la violence...
Qui pense que seule
conscience.
La violence peut mettre de l'ordre.
Oui, non, d'accord, mais en pleine conscience, parce que par opposition au régime
voilà.
archaïque...
C'est pour ça que... Oui, vous avez raison.
Qui instaure le régime de régulation sur la violence.
Qui, après la révélation, avant la révélation, ouais. c'est la méconnaissance totale. Ça fonctionne parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais après la révolution, la révélation, quand Jésus a dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, il a instruit tout le monde. Tout ce qui se passe après la révélation et qui est dans l'ordre de la religion archaïque, c'est-à-dire... violent et satanique. Parce que c'est le choix, après la révélation, on a le choix entre le royaume ou les ténèbres. Et ben, c'est le choix des ténèbres. C'est le refus du royaume, et donc c'est le choix des ténèbres. Alors que les religions archaïques sont innocentes d'une certaine manière, les religions d'aujourd'hui ne peuvent pas l'être, parce que tout est révélé. Tout est révélé.
Oui, mais enfin, tout est révélé, mais il y a des tas de moments où on n'est pas conscient de tout. Et justement, il y a ce besoin de l'autre pour nous amener à la conscience de ce qui se passe. On peut pas être conscient il y a des tas de mécanismes, par exemple, qui se passent aujourd'hui d'événements qui se passent dans notre société qui sont relativement violents, de violences dans les manifestations, de violences policières et autres. On voit bien que ces violences se nourrissent l'une l'autre, donc on est pleinement là-dedans.
Vous avez des rivalités mimétiques, là, oui.
Voilà, on est dans des violences qui produisent de la violence. Mais on peut tous tomber là-dedans, je veux dire, dans ce moment où on devient producteur de violence. Et s'il n'y a pas cette capacité des autres à nous faire voir cette violence qui est en nous, on peut pas la voir, quoi, d'une certaine manière. Enfin.
Mais qu'est-ce que vous appelez cette capacité des autres à nous faire voir cette violence ?
Les violents
ne peuvent pas nous éclairer sur notre propre violence. Ils peuvent que la déchaîner, notre violence. Donc on peut
non,
pas.
Non, mais ce qu'on a en puissance dans l'Évangile, par exemple, cette idée de tendre l'autre joue, qui veut pas forcément dire de demander à l'autre d'être encore plus violent avec soi, mais de faire voir ce qu'il est en train de faire.
D'arrêter.
Et ce qu'on trouve, par exemple, dans les mécanismes qui se développent beaucoup aujourd'hui, de développement de pleine conscience, de communication positive, où dans l'interaction, chacun peut affirmer ce qu'il est sans être dans la rivalité mimétique, justement. Quoi.
Oui, mais toutes ces entreprises sont sûrement salutaires et au fond, on pourrait les résumer toutes à dire il faut que je sache que je suis persécuteur et non pas persécuté. Mmh. C'est pour ça que vous aviez raison de dire que la position de la victime est très ambiguë et généralement très suspecte. Parce que c'est la position générale, on est toujours victime, les agents de l'ordre sont victimes des manifestants, les manifestants sont victimes. Ça, c'est le propre de la violence, qu'il n'y a que des victimes. Donc, celui qui veut sortir de la violence, il doit se savoir persécuteur. Alors, quand on sait qu'on est persécuteur, on hésite peut-être plus à persécuter, sauf quand on se décide persécuteur, ça c'est autre chose. Mais dans notre univers chrétien, ce savoir persécuteur, c'est s'empêcher autant que possible de persécuter. Ce n'est pas forcément ne pas pratiquer la légitime défense, mais c'est savoir en tout cas que si on voulait arrêter la violence, il faudrait aller jusque-là. Et au fond, qu'est-ce que fait le Christ ? Et c'est pour ça qu'il meurt en croix, c'est le refus total de la violence. Quelqu'un qui refuse totalement la violence, c'est pour ça que la pensée chrétienne est assez radicale, eh bien, plutôt que de tuer, il sera tué. Mais il n'y a pas de troisième possibilité. Dans certaines situations, s'il ne veut pas tuer, il va être tué. C'est pour ça que peut-être il y a quand même un espoir derrière d'être accueilli au paradis et d'être enfant de Dieu. Et au fond, la résurrection donne de l'espoir parce que si on est vraiment chrétien, on sera toujours tué. On sera jamais tueur, on sera toujours tué. Quand on a c'est ça l'arrêt de la violence en fait. Alors en réalité, c'est quand même juste toutes ces petites manipulations qu'on fait pour essayer d'apprendre aux gens à vivre dans un monde violent. C'est que si vous êtes agressé, quelquefois ça marche. Hein, si vous êtes agressé verbalement, etc. Et si vous ne répondez pas, vous désamorcez votre... Des fois, ça marche quand même. Alors, c'est peut-être ça qu'on apprend. Ça marche. Alors que si, ce qui est votre tendance naturelle, vous répliquez, il y a une escalade, et cette escalade, on ne sait pas où elle va.
C'est clair.
C'est ça aussi que montre Girard. Le désir mimétique mène à la rivalité mimétique, les doubles, etc. Et ça va jusqu'à la mort. Il arrive, il dit ça dans le mensonge romantique, le fin du désir, enfin ce qui attend le désir, c'est la folie ou la mort. C'est-à-dire qu'il faut prendre très très au sérieux le péché originel, parce que si on ne se rend pas compte, et si on trouve ça normal, on peut sans se rendre compte, c'est pour ça que vous avez raison, là, les prises de conscience sont très importantes. Il ne suffit pas de prendre conscience qu'on est violent pour ne pas être violent, mais ça, c'est quand même la première des choses.